Francis Gosselin, économiste.
Tout ça, ils l'ont échappé.
Consultant.
C'est quand même pas une petite affaire.
Auteur.
C'est moins politiquement populaire.
Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
C'est bon. Bonjour Francis.
Salut Mario.
Alors c'est une étude qui a quand même fait réfléchir et discuter pas mal de gens. Oui, on dit souvent, bon, les maisons, les condos, les prix montent à Montréal. Mais là, il y a une étude qui est venue prendre ça par l'autre bout de la lorgnette. Combien faut-il gagner pour penser devenir un acheteur, un propriétaire à Montréal?
Effectivement, Mario, puis on m'a interpellé là-dessus, des amis, tu sais comment c'est, je suis toujours l'économiste là, dans mon réseau, puis je me suis un peu intéressé, j'ai relu les différents médias là, qui rapportaient l'étude, j'ai pas réussi à trouver la méthodologie, puis hier, à l'antenne de Cube, là, il y a eu quelqu'un de la PCIQ qui est venu parler avec Richard Martineau de ça, mais bref, j'ai juste comme fait la rétro-engineering de leur étude, puis honnêtement, soit c'est faux, ou soit il y a quelque chose que je comprends pas, mais grosso modo, Mario, là, j'ai parlé avec des courtiers immobiliers. C'est probablement le sujet que j'ai le plus préparé depuis qu'on fait de la décision. Mais écoute, une maison de 1000 pieds carrés, là, 100 mètres carrés, ça se vend autour entre 700 puis 800 piastres du pied carré. Là. Puis après ça, t'as sûrement des maisons là, super.
Donc 700-800 000 pour une maison.
700-800 000. Mettons qu'on prend 6 % de taux d'intérêt, là, ce que je paye là, personnellement à taux variable actuellement. Ça fait des paiements de 3 500 par mois.
Vous allez t'as mis le cash down, le
j'ai mis
le
cash down à 20 % Ouais, okay, fait que là, si tu veux, là, on peut changer.
Mais il faut quand même que tu aies 160 000 là, à mettre de cash.
Oui, effectivement.
Mais parce que rarement, 700-800 000, d'habitude, c'est pas une première maison, mais, généralement.
Mais tu sais, gars, là, je viens de le refaire, j'ai mon petit chiffrier, je suis vraiment prêt. Là, j'ai refait à 5 % là, qui je pense, selon la CHL, là, le taux minimum que tu peux mettre. Ça fait quand même des paiements en bas de 5 000 $ Rajoute des taxes municipales à 500 $ des frais. Grosso modo, Mario, ça fait 6 000 $ par mois, ce qui est comme plus que la moyenne des loups. Mais ça reste que 6 000 $ par mois, toutes taxes comprises, si tu prends ce qu'on appelle l'amortissement total de la dette, là, qui est l'instrument que les banques utilisent, ça fait un revenu de 190 000 $ là, ce qui est quand même bien en deçà du 251 000 qui est présenté dans l'étude. Puis 190 000 $ possiblement, c'est pour le ménage. Fait que si tu as deux personnes dans le ménage qui gagnent chacun 90-95, encore une fois, est-ce qu'il y a un très, très bon salaire
ben,
au Québec?
Mais c'est le salaire d'une infirmière au sommet de l'échelon.
Ben,
là.
C'est pas
le PDG d'Air Canada.
C'est juste que je lisais ça hier, 250 000 $ je suis comme, honnêtement, je connais pas grand monde qui gagne 200. Comment je veux dire, c'est le 1% là, au Québec. Là, tu comprends? Et donc, je me dis, si la maison médiane à Montréal se vend et qu'il faut gagner ce salaire-là, ça a aucun sens. Je veux dire, il y a personne au Québec qui gagne.
Enfin, donc, tu penses qu'ils ont un petit peu exagéré?
Je pense qu'ils ont forcé le trait, puis ça a fait des beaux titres là, dans les journaux, mais honnêtement, à mon avis, la méthodologie est un petit peu lousse là, sur les bouts.
Mais dans ton raisonnement, ouais. Parce qu'il m'intéresse, je suis sûr qu'il intéresse les gens, toi, tu calcules que on met une personne qui va avoir un budget là, raisonnable, mais quelle proportion de son budget, ou un ménage ou un couple, sur l'hypothèque? C'est qu'est-ce qui est raisonnable de mettre sur l'hypothèque puis que t'es encore capable de manger puis d'avoir un petit peu de loisirs?
Ben, tu sais, la norme là, qu'on dit depuis toujours, Mario, c'est qu'il faut pas mettre plus que 30 % de son salaire. Là, moi, ce que j'ai calculé, c'est la norme de la Banque du Canada là, qui est 44 % là. On appelle ça l'amortissement total de la dette. Puis ultimement, pour tout te dire, l'amortissement total de la dette, ça va inclure d'autres paiements. Donc, par exemple, si t'as une auto, si t'as d'autres choses que j'ai pas considéré. Donc, peut-être qu'effectivement, si tu rajoutes une voiture de luxe là-dedans, puis je sais pas, une vieille carte de crédit, des dettes étudiantes, etc., ça pourrait être 250 000. Le commentateur hier, là, l'invité à Richard Martineau, disait que en fait, selon lui, c'était plutôt 300 000 $ Mais tu sais, je trouve que c'est de la surenchère sur les chiffres. Puis encore une fois, les gens qui sont dans des marchés achètent des maisons à 1 million $ généralement.
C'est pas une première, là.
Ben, c'est pas une première.
C'est que t'as acheté, à 20 quelques années, peut-être t'as acheté un petit condo.
Tu l'as revendu
avec un profit, c'est
sûr. Puis tu mets pas possiblement 5 %. Puis c'est pour ça que c'est mon erreur, Mario. C'était peut-être un peu con, mais pour moi, tu sais, dans ma tête, tu mettais 20 % parce qu'en plus, là, si tu mets 5 %, t'as possiblement des éléments là, d'assurabilité,
voilà,
la CHL à payer. Mais grosso modo, en
mais avec un 20 %, t'arrives à quoi? 3 700 de paiement? Quelque chose comme ça, c'est ça que t'as
mis? Écoute, je le refais, Mario, en live. Tu sais, pour les auditeurs, je suis devant un Excel, le vrai économiste geek. Là, mais grosso modo, si tu mets 20 %, le salaire familial qu'il faut là, avec toujours les mêmes normes, c'est 165 000 $ donc du ménage, là, tu sais, donc c'est 82 000 par personne pour pouvoir s'acheter une maison comme ça. C'est encore une fois ce qui est plus En tout cas, je connais plus de gens qui gagnent 80 000 que de gens qui gagnent 250 000, je vais le dire comme ça. Et donc, ça semble moins choquant que ce que j'ai lu dans les médias hier là, par rapport à cette étude de HelloSafe. Donc, voilà. Je les invite à me contacter avec la méthodologie, s'ils veulent.
Peut-être pas. Peut-être qu'ils sont pas intéressés.
Peut-être que je changerai mon fusil d'épaule pour la prochaine fois.
Le sujet intéresse, mais j'entends que... Mais je veux dire, c'est aussi... Parce qu'à un moment donné, tu fais des calculs, tu mets tellement d'hypothèses... Tu mets tellement d'hypothèses dans l'histoire que oui, tu peux faire dire aux chiffres.
Effectivement, l'autre dimension que j'ai pas creusé plus, Mario, mais c'était les comparaisons entre les différentes régions du Québec, entre les différentes villes. Puis moi, une qui me choquait particulièrement, c'est que selon l'étude toujours d'HelloSafe, c'est 251 000 $ à Montréal, puis à Laval, où c'est moins cher, Mario, mais c'est pas la moitié du prix là, au pied carré. Il parlait de 140 000 $ Je veux dire, encore une fois...
L'écart Montréal-Laval est démesuré.
Je connais quand même bien le marché immobilier québécois, puis particulièrement montréalais, puis la différence n'est pas de cet ordre-là. Tu sais, c'est 10, 15, 20 % moins cher à Laval, à Brossard, etc., mais c'est pas la moitié moins cher. Là, tu sais, sinon, Montréal se viderait complètement. Là, tu sais. Voilà, donc bref, peut-être un petit peu de travail méthodologique à faire la prochaine fois pour convaincre l'économie. En moi.
Bon, est-ce que on doit croire en Uber ou boycotter Uber? Qu'est-ce que c'est? Quel est l'impact d'Uber pour l'économie d'une localité comme le Québec quand on n'a pas le siège social chez nous là?
Ouais, mais en fait, c'est en fait Uber là, qui a publié ses propres chiffres. Tu sais, c'est une entreprise qui est quand même assez polarisante, on va le dire comme ça.
Moins
mais...
qu'avant, quand même.
Pas mal moins. Puis tu sais, il y a eu changement au niveau de la présidence là, puis je sais pas si t'as vu la série sur Netflix là, qui est quand même excellente là, mais tu sais, Travis Kalanick, le fondateur là, qui était un peu sexiste, un peu raciste, un peu fou là, tu sais, qui quasiment se battait avec ses employés, il n'est plus là. Il a été remplacé, donc ça a beaucoup atténué. Puis je pense que le changement à la tête a aussi fait en sorte que Uber, tu sais, dans sa relation avec les gouvernements, avec l'opinion publique dans tous les pays,
ça s'est adouci.
Ben ils ont arrêté d'être le punk là, tu sais, qui essaie de tout casser, le petit un peu emmerder tout le monde comme une attitude, puis être plus comme, ben là, nous, on offre ça, c'est quand même, tu sais, concurrentiel, est-ce qu'on peut faire
mais
notre
mais il y a un autre phénomène, c'est que moi, je me souviens du débat, écoute, au moment où François Bonnardel, la CAQ arrive au pouvoir, oui. François Bonnardel arrive ministre des Transports, il est nouveau ministre des Transports, puis là, il est pogné avec ça, les taxis ou Uber, puis souviens-toi du lobby, là, les manifestations des uns, des autres, et dans nos émissions, moi, c'est une émission de 2 heures, je parlais de ça quasiment tous les jours, 20 minutes, non, c'était une grosse affaire. Autour du fait, Francis, que il y avait comme une seule clientèle, un seul morceau de pain, et puis tout le monde allait s'arracher la mie sur le pain. Or, aujourd'hui, tu sors à Montréal le soir, tu veux rentrer à 11h30, tu trouves ni un taxi, ni un Uber, il y a pénurie de main-d'œuvre, manque de monde. Fait que de toute façon, il semble plus y avoir ce manque de clientèle-là ou ce surplus d'offres. Fait que c'est comme si tout le dossier, tout ce qu'on a dit à François Bonnardel, dans le fond, ça voyait pas venir ce qui s'en venait comme pénurie de main-d'œuvre.
Il y a la dimension de l'offre, là, comme tu le décris, effectivement. L'autre aspect, Mario, qui faisait quand même, tu sais, crier beaucoup, là, à l'époque, puis bon, que ça s'est peut-être un peu normalisé juste avec le temps, là, mais à l'époque, tu te rappelleras, les chauffeurs de taxi, puis c'est pas juste au Québec, tu sais, à New York, en France, là, tu te rappelles, ils faisaient brûler des voitures. Ben, ils font souvent brûler des voitures en France, mais en fait, il y avait la notion que la plupart des pays réglementent qui peut conduire quelqu'un, là, tu sais, c'est-à-dire...
Il y a une loi sur le taxi.
Il y a une loi sur le taxi. Et donc, grosso modo,
il faut
un numéro de permis. Puis dans quasiment tous les pays, il y a un genre de marché secondaire.
Et des fois, le permis valait 200 000 piastres
à
Montréal.
C'est ça. Puis 200 000 $ pour un chauffeur de taxi qui en gagne 30 ou 40, il faut qu'il nourrisse sa famille, il faut qu'il paye sa maison à 800 000. Mon point, c'est qu'il en reste plus beaucoup. Fait que ce 250 000-là, il va l'amortir, tu sais, sur 30 ans, quasiment comme une maison. Tu sais. Fait que là, la personne qui a pris un emprunt à la banque, qui paye son permis de taxi, puis qu'après 3 ans plus tard, Uber débarque puis dit n'importe quel Joe Blow peut conduire du monde, ça, la valeur de son permis vient de chuter. T'sais. Là où je vais en arriver, c'est qu'avec le temps, en fait, tout ce débat-là, je pense que les permis ont un petit peu perdu de valeur, c'est devenu un petit peu plus libéral, un petit peu comme marché. Puis l'autre affaire que tu évoques, Mario, c'est que donc il y a un enjeu d'offre et Uber, c'est aussi diversifié. Hein. À l'époque, c'était juste des taxis, puis moi, je me rappelle, j'étais un des premiers utilisateurs de Uber, c'était quand même classe. Là, genre, c'était des belles voitures. à Montréal, on avait ces vieilles Camry qui sentaient un peu le pied là et tout ça. Le Uber, c'était comme des Lexus, puis c'était comme wow, puis ça coûtait moins cher. Bref, pour faire une histoire courte, ils ont lancé Uber Eats, ils ont lancé plein d'autres services permettent de livrer l'épicerie, le restaurant, etc. Et aujourd'hui, on estime que c'est environ 1,6 milliard de dollars d'activité économique au Québec. C'est quand même pas un petit montant.
Tu y crois au chiffre, ouais?
Ça semble être assez justifiable. Puis en fait, en plus, ils décrivent là, par catégorie là, de services. Ils estiment notamment que les restaurateurs sont ceux qui en ont le plus profité parce que eux, éventuellement, c'est une vente qu'ils ne feraient pas si Uber était pas là. Ou tu sais, il y a d'autres services, là, DoorDash, là, puis tout ça.
Pendant la pandémie, on en a livré ben
beaucoup,
en masse.
Puis c'est des ventes que, tu sais, le petit restaurateur là, qui n'est pas une franchise, etc., lui,
il s'installera pas une flotte de véhicules pour livrer ses...
Donc, c'est sûr qu'Uber prend, je pense, 25-30%, mais ça reste des ventes qu'il ne ferait pas autrement. Puis, tu sais, il peut... Ben, fait ça pour dire que c'est quand même, au final, toutes ces années plus tard, je pense que c'est une entreprise qui a trouvé une forme d'acceptabilité sociale et qui rapporte quand même son pesant d'or là, au Québec. Puis, il faut dire que depuis que ça inclut les taxes, etc., moi, du point de vue, tu sais, justice fiscale, je te dirais qu'au moins, tu sais, c'est pas comme l'espèce de joueur là, qui charge pas les taxes, qui a pas de permis, qui fait n'importe quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus régi, puis c'est un petit peu plus juste, je pense.
Pour mais ce que tu parlais pour les véhicules...
C'est moins vrai.
C'est encore un petit peu vrai.
Ouais, mais j'ai pris des Uber, moi, récemment, puis c'était comme un peu, tu sais, le petit beater acheté sur AutoTrader à 4 000 $ là,
okay. Qui faisait boîte du téléphone, une boîte à sardines. Savon,
ouais. Okay. C'était pas chic, là, fait que, tu sais, je me rappelle comme
mais
ça.
Mais si on en appelle 10, là, 10 taxis, 10 Uber.
Je vais faire l'enquête, si tu veux, Mario.
D'après moi, on gagne.
Je te reviens. On gagne chez Uber. Je sais pas. Il y a des taxis qui ont un peu pris le virage aussi. Maintenant, on voit plus de véhicules hybrides, des
RAV4.
Tout ça pour dire que c'était...
Non, il fut une époque où un bon taxi, là, pour ramasser l'eau, puis c'est du journal dans le fond de l'auto.
Oui, puis tu sais, encore une fois, là, j'ai beaucoup d'empathie. Tu sais, je connais des gens qui sont des chauffeurs de taxi. Tu sais, c'est un métier qui est difficile, mais tu sais, ça reste que juste l'expérience client. Je veux dire, je me rappelle, là, Mario, tu te prenais un taxi, le gars, il était au téléphone de chez vous à l'aéroport. Tu sais, c'est comme il parlait à sa femme, il parlait à ses amis. Il s'en foutait que tu sois dans son taxi. T'arrivais dans Uber, le gars, c'est quasiment, il avait des gants blancs, une bouteille d'eau, puis des chiclettes. Tu sais, puis c'était comme, monsieur, quelle musique voulez-vous écouter? Est-ce que la clim est trop forte? C'était comme, my God, je suis en classe à faire, tout d'un coup. Fait que ça pour dire que ça s'est normalisé, tout ça. Puis s'il y a de quoi, ça va peut-être tirer l'industrie du taxi montréalaise à la hausse, puis tant mieux pour les consommateurs et pour tout le monde.
Finalement, tu veux nous parler d'un énorme recul chez Desjardins?
Écoute, Mario, c'est drôle. Moi, c'est pas Desjardins. Quand j'avais 5 ans, ma maman m'a emmené à la RBC à l'époque. Là, maintenant, je suis membre chez Desjardins aussi, mais à la RBC. Puis j'ai eu mon livret Léo le Lion. Là. En tout cas, écoute, chacun passe par eux. Puis j'avais un petit lion sur mon truc. Puis de temps
en
temps.
Nous, on avait la caisse scolaire. Moi, j'étais en milieu rural. Ben, on avait la caisse scolaire avec Desjardins.
Mon point, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, c'était important, le livret, parce que c'était comme une action que je posais, tu sais, dans ma relation à 5-6 ans, là, ma relation à l'achat, déposer 5 $
Mais on voyait le montant grossir, mais on déposait des petits montants.
Au guichet, on pouvait imprimer le livret, là, tu te rappelles, puis c'est...
Ben oui.
Mais Desjardins, c'est encore, certaines caisses ont encore, au guichet, la possibilité de mettre à jour le livret. Ce qui est étonnant pour moi, Mario, c'est qu'on apprend dans les différents médias qui ont relaté la nouvelle, ben déjà, que le mouvement Desjardins met fin à ce livret bancaire. Donc, entre nous, honnêtement, il était temps. Là. Je pense que le mouvement Desjardins est comme la dernière institution financière à faire ce mouvement-là au Canada.
Sauf que on se comprend que c'est des personnes âgées. Là. C'est essentiellement. Parce qu'ils disent qu'il y a 6% des gens qui ont encore un livret.
Oui, mais c'est 300 000 personnes, Mario. Tu sais, c'est en pourcentage, ça n'a pas de l'argot, mais it's a lot of people, comme on dit, 300 000. Puis ces 300 000-là, éventuellement, ben, c'est des gens de 70 ans, mais ce que je crois comprendre, Mario, pour certaines caisses, là, tu sais, c'est certains, parce que les caisses, c'est pas la Banque Royale, ou tu sais, c'est une institution, un ensemble
c'est
d'actifs,
local,
une
là.
Communauté. Ben, tu sais, si la personne de 70 ans, là, tu sais, il y a toute une répartition des avoirs, mais si elle a 2, 3, 4 millions de dollars qui est placé, qui est investi, etc. Puis que là, tu y enlèves son livret. Puis entre nous, là, elle n'aura pas plus de livret à la nationale ou à la... Tu sais, il n'y aura plus de livret nulle part. Mais si tu lui enlèves son livret, peut-être que par dépit, là, par vengeance, elle traverse puis elle s'en va à l'autre. Puis elle part avec ses millions. Puis c'est sûr que pour une petite caisse, tu sais, éventuellement dans une région où il y a beaucoup de personnes âgées, ouais, ça peut être menaçant. Mais après,
mais là,
à un
moment
donné...
Mais ils font ça quand même doudou. Parce que là, ils l'annoncent maintenant pour le mois de novembre. Ouais, et ils invitent les gens à se présenter à leur caisse. baisse, puis là, ils vont leur fournir les alternatives.
C'est ça, exactement. Mais bon, tu sais, comme toi, comme moi, Mario, puis tu sais, j'en ai dans ma famille, là, dans les 70, et puis tu sais, c'est le rapport à la technologie, puis tu sais, les habitudes, puis tu sais, encore une fois, c'est correct, là, j'ai beaucoup de respect pour les aînés, mais ça reste que quand ça fait 50 ans que t'as une manière de faire du banking, puis là, soudainement, on dit, tu sais, tu dis là, au mois de novembre, mais le mois de novembre, quand t'as 70 ans, je sais pas, le rapport au temps, là, c'est demain. C'est comme, mois de novembre, je vois ça comme, tu book-moi quelque chose en novembre, c'est à l'infini, mais je pense que quand t'es retraité, etc., novembre, ça vient vite, puis c'est un changement majeur.
Mais là, il va avoir encore le relevé papier. Donc, la personne qui veut, tu vas le recevoir, à la limite, tu peux le recevoir par la poste. Là, ton relevé papier, c'est pas loin d'être l'équivalent du livret. Là, t'as toutes tes transactions. Et Desjardins, ce sera même plus précis, parce que dans le livret, c'est juste écrit, mettons, retrait Interac. Là, alors que sur ton relevé complet, tu vas voir que c'est un retrait Interac à l'épicerie métro ou chez IGA. Tu vois exactement, mais tu peux te souvenir de la transaction.
T'es-tu en train de me convaincre de faire
d'abandonner ton livret?
Non, mais d'aller sur Internet. Non, j'utilise...
J'essaie de te convaincre d'abandonner ton livret.
J'ai même plusieurs accéder là, en parallèle. C'est assez compliqué, mon affaire. Mais tout ça pour dire, bref, c'est la fin de ça. Puis, à quelque part, je trouve ça, c'est comme un peu signe des temps. Là. Tu sais, comme, ça fait pas si longtemps qu'on a adopté massivement les guichets automatiques. Puis, tu sais,
mais c'est parce que pour les gens plus âgés, j'en connais, j'en observe, c'est que ça va comme trop vite. Parce qu'il y a des gens là qui vont au guichet, puis qui faisaient mettre à jour, mettons, la semaine passée, là, ils rentraient leur livret dans l'imprimante du guichet. Et eux posaient un geste d'adaptation technologique parce qu'ils disaient, autrefois, c'était la caissière. Là, je le fais moi-même. Je suis au guichet. Je pitonne avec ma carte. Puis là, je mets à jour mon livret moi-même. Fait que la personne, elle se voit qu'elle s'est adaptée à la technologie. Mais là, elle a le sentiment que t'en rattrapes jamais la technologie parce qu'elle court plus vite que toi.
C'est sûr que c'est ça. Puis encore une fois, je fais juste, tu sais, prendre un pas de recul. Regardez, juste dans les 20-30 dernières années, tu sais, on a tendance souvent à penser que la finance, c'est assez statique. Là, tu prends de l'épargne, tu fais des prêts. Mais c'est fou le nombre d'itérations. Puis tu sais, juste dans ma vie, moi, comme je veux dire, je suis parti de Léo le Lion puis à la caissière, comme tu décris. Puis tu sais, j'ai 40 ans, là, j'ai pas vécu 3 siècles. Mais dans cette période-là, aujourd'hui, Mario, quand je vais en succursale de
c'est rare.
Je suis comme, qu'est-ce qui se passe?
Renouveler une hypothèque.
Et encore,
des grosses...
maintenant, tu peux renouveler sur Internet directement si tu veux pas changer trop de paramètres. Tu prends le taux, le terme, puis basta.
Mais c'est même plus une fois par année, là.
Non, ben c'est ça, exactement. Fait que tu sais, tu vas finalement en caisse.
Mais même au guichet.
Quand t'as un problème.
Même au guichet, on ne va plus, tu sais, que du comptant, on sort ça quoi 2-3 fois par année, on n'utilise jamais. Moi, je vais même plus au guichet ou très peu, là.
Effectivement. Non, mais c'est ça. Fait qu'à quelque part, je pense que pour Desjardins, c'était une question de, tu sais, d'arriver, là, un petit peu à simplifier certains processus. Puis, tu sais, j'aurais même surpris, Mario, je vais fouiller la chose, là, si tu veux, on en reparlera plus tard cette semaine. Mais, tu sais, dans les fabricants de guichets automatiques, Mario, là, je suis pas sûr, tu sais, à l'échelle mondiale, là, il doit pas avoir des millions de compagnies, là, qui font des guichets automatiques. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui font encore des guichets avec imprimeuses de
livrets. Mais c'est le problème. C'est le problème. Un porte-parole de Desjardins m'a expliqué ce matin que c'est de leur réflexion est partie du fait que leur fournisseur guichets leur dit ça se fait plus que des imprimantes.
Tout à fait. Donc voilà.
C'est le point de départ de la réflexion.
On vient de m'envoyer Mario, le Michael Sabia va être confirmé le 1er août.
Oui, l'alarme est sortie tout à l'heure. Oui, c'est ça.
On en reparlera demain.
Officiellement président d'Hydro-Québec. Voilà. Merci, à demain.
Bonne fin de journée.